podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des dossiers d'aux frontières des séries. Aujourd'hui, les acteurs de cinéma se retrouvent de plus en plus sur nos petits écrans, ce qui donne généralement lieu à de très belles surprises telles que True Detective, qui est certainement la série de l'année 2014, mais aussi House of Cards et la nouvelle série Fargo. Mais détrompez-vous, la présence d'un grand acteur de cinéma ne fait pas toujours tout et n'est pas synonyme de réussite. Car bien que ces acteurs parviennent parfois à faire briller une série par leur talent, la narration est, elle aussi, primordiale. Nous en avons ici la preuve avec Luck, série en 9 épisode diffusé à partir de fin 2011 sur la chaîne HBO, porté par Dustin Hoffman, Nick Nolte et une foule de comédiens très talentueux. La série était pourtant de prime abord très prometteuse, créée par David Milch, à qui l'on doit entre autres Deadwood, ainsi que Michael Mann, réalisateur de renom à la tête du film Het ou encore Public Enemies. Luck n'a pourtant pas réussi à trouver son public. Mais de quoi parle cette série, me demanderez-vous? Luck va nous plonger dans l'univers des courses hippiques, ce qui n'est peut-être pas le dada de tout le monde. Ce thème va-t-il malgré tout réussir à conquérir le cœur des téléspectateurs ou est-il au contraire la cause de l'interruption de la série au bout de 9 épisodes? Nous allons le découvrir dans ce dossier avec les pronostics de Cindy Willem. Bonjour.
Bonjour.
Pour nous accompagner aujourd'hui, Sarah Sepulcre.
Oui, je mise tout sur Petit Poney à la rangée 3.
C'est noté, c'est à 3 contre 8. Alors Cindy, dis-moi, avant de savoir comment la série se termine, est-ce que tu nous ferais pas un petit topo sur l'histoire de Luck?
Oui, je pense que c'est indispensable parce que donc c'est vrai que Luck, ça va nous parler des courses hippiques, mais vraiment dans son intégralité. Donc ça va des chevaux, de leurs dresseurs, des entraîneurs, des jockeys, de leurs propriétaires, mais aussi des parieurs. Pour revenir à l'épisode pilote, les premières images sont sur Dustin Hoffman.
Qui n'est pas un cheval.
qui est finalement une très bonne entrée en matière.
Oui, effectivement, qui n'est pas je sais pas, c'est mieux. Dustin Hoffman s'appelle Chester Ace Bernstein, donc dans le monde hippique, on l'appelle Ace. C'est un businessman du milieu hippique qui sort tout juste de prison après 3 ans. On ne sait pas trop pourquoi il est en prison sur le coup, mais on va vite le découvrir. Il est propriétaire d'un cheval à 2 millions de dollars et il compte se remettre petit à petit dans son ancien business. Malgré tout, Ace devient vieux et il y a pas mal de choses qui ont bougé durant qu'il était en prison. À côté de lui, on a Gus Dimitriou qui est interprété par Denis Farina. Gus est l'ancien chauffeur et ami de longue date de Ace. Il va l'aider à se remettre un peu dans le milieu. Mais c'est vrai que déjà ici, les premiers plans qu'on a avec Ace et Gus, on voit bien qu'il y a quand même une atmosphère assez froide. Ace n'a pas l'air quelqu'un de très sympathique, il est en costume, il laisse très peu transparaître. Et en même temps, on essaye par la mise en scène de le glorifier d'une certaine façon, de lui donner une certaine importance. Malgré tout, le rôle précis qu'il joue dans le monde hippique reste très flou au début. À côté de lui, donc, on a une petite équipe de parieurs qui vont faire, selon moi, toute l'histoire du pilote et qui va peut-être nous donner envie de continuer. Cette petite équipe de parieurs, c'est Marcus, Jerry, Renzo et Lonnie. On le découvre tous les quatre. On voit par exemple Jerry, dans un premier temps, on comprend tout de suite que c'est un joueur de casino aussi, pas seulement de course, et qu'il est déjà sans le sou, alors qu'aujourd'hui, il y a une grande course qui permet de remporter le gros lot. Il arrive malgré tout à trouver un peu d'argent auprès d'un policier corrompu qui est devenu, entre guillemets, leur ami, et il joue un Pixis. Qu'est-ce que c'est un Pixis? C'est une bonne question. Je pense que si on n'est pas amateur de sport hippique, ben on sait pas trop ce que c'est, mais on imagine que c'est ce qui va pouvoir leur faire emporter le gros lot. Et donc, le premier épisode va centrer sur ça et on découvre à la fin de l'épisode qu'ils gagnent entre 2 et 3 millions de dollars grâce aux 6 chevaux qui ont gagné les différentes courses.
On comprend déjà avec ce que tu nous racontes là pour le moment que si on n'est pas initié au milieu des courses de chevaux, milieu hippique, certaines choses restent obscures et ne sont pas nécessairement expliquées dans la série.
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment le gros problème dès le départ. Je pense que on doit vraiment être dans l'immersion de la série et continuer à la regarder sans interruption pour vraiment tenter de comprendre ce qui se déroule, parce que autrement, je pense que si on regarde un épisode et qu'on regarde le deuxième épisode une semaine après, on est complètement largué. Déjà, en les regardant les uns dans la suite des autres, c'est franchement pas facile à comprendre et personnellement, j'ai pas tout compris.
On est un peu dans le cas de figure que Tillman nous évoquait il y a quelques mois concernant John from Cincinnati, qui évoquait le milieu des surfeurs. Sauf que dans John from Cincinnati, qui était aussi une série HBO, bizarrement, c'était juste le premier épisode qui était difficile à comprendre. Par la suite, le monde du surf passait au second plan. Alors qu'ici, apparemment, le monde de la course, le monde hippique, reste évidemment le fil conducteur de cette série.
Oui, vraiment. Et en plus, c'est drôle que tu me parles de cette série parce que c'est justement créé par la même personne qui est David Milch, qui a créé John from Cincinnati et qui a d'ailleurs, selon moi, pas très très bien fonctionné, non ?
Oui, effectivement, on en avait parlé avec Tillman, c'est une série qui n'a duré qu'une saison, qui a été très très mal comprise, mais qui, après coup, actuellement, commence à remporter un peu un statut de série culte.
C'est vrai que vu qu'il y avait déjà eu une saison, enfin, il a déjà eu cette série qui a été stoppée au bout d'une saison, on dirait que David Milch n'a pas réussi à tirer des leçons de ses erreurs.
Souvent, quand on a un milieu qui est difficile à aborder, on a un espèce de personnage naïf qui arrive et qui ne le connaît pas, à qui on explique les choses, c'est pas le cas ici.
Mais non, justement, pas du tout, parce que, comme je le disais, on a Ace qui est un businessman dans ce milieu, on a son ami, son bras droit, on va dire, et puis à côté de ça, on a les parieurs et on a toute une série de personnes aussi alentour dont je vais vous parler tout de suite, mais qui sont aussi du milieu, donc on n'a aucune compréhension de tout ce qui est course hippique. On nous présente des personnages et on se dit voilà, on vous présente le truc, mais débrouillez-vous avec, essayez de comprendre par vos propres moyens. Et donc je pense que c'est vraiment la grosse faiblesse de la série dans un premier temps.
Comme en plus, pour reprendre l'exemple de John from Cincinnati, là le surf c'était finalement qu'une tapisserie de fond. Ici, le milieu de la course, c'est quelque chose de très important dans Luck. On peut pas passer au-dessus. Si on comprend pas, on loupe une partie de l'histoire.
Oui, oui, voilà. Je pense que ce qui est le plus compliqué à comprendre, c'est justement ce qu'essaye de faire Ace. Il a été pris dans une espèce d'arnaque et il veut à son tour parvenir à... On le comprendra après. L'histoire va évidemment évoluer et on va petit à petit en savoir davantage sur ses plans. Ace avait subi un coup monté par son ancien partenaire. Et c'est la raison pour laquelle il avait fait 3 ans de prison et il n'avait pas voulu le dénoncer, qu'il a donc fait la prison. Maintenant, ici, ce qu'il va vouloir faire au fil des épisodes, c'est essayer d'acquérir l'hippodrome pour pouvoir l'intégrer à un complexe plus grand avec casino et compagnie. On comprend qu'il y a quelque chose qui se passe aussi avec le casino, mais malgré tout, tout reste assez flou en fait. On rencontre des personnages, des personnes qui travaillaient avec lui, ils ont pas mal de conversations entre eux, mais on ne sait pas où ça veut en venir. Pour moi, c'est le problème.
Si on s'écoutait un petit extrait.
Oui, je vous propose donc d'écouter un extrait qui reprend nos 4 personnages dont je vous parlais tout à l'heure, donc les 4 parieurs, Marcus, Lonnie, Renzo et Jerry. On va ici un peu découvrir leur personnalité à chacun. Je vous les décrirai un peu plus profondément juste après.
Le docteur Kahn ne vous immobilise pas, mais vous devez surtout pas oublier que vous avez une fracture du crâne.
C'est noté.
Oui, c'est très bien, monsieur. Vous avez rendez-vous.
100% pas fiable. 100% rebut de la société.
Il faut qu'on lui fasse suivre un régime spécial.
Le médecin n'a rien dit de ce genre.
Même le minimum de respect qu'on se doit entre êtres humains, il connaît pas.
Hé, hey, Lonnie, ça va ?
Hé, hey, Jerry !
Je vais pas me plaindre, hein, ça aurait pu être pire.
T'as failli être à l'heure, j'en reviens pas.
Ouais, je cherchais Goose.
Signez le reçu pour vos effets personnels.
Je suppose que t'as dit à ce cow-boy que tu serais en retard ?
C'est bon, il est 8h15, Marcus. Je lui ai dit que je passerais ce matin, c'est tout.
À Escalante aussi ?
Pas encore, maman, non.
Ouais, c'est ça. Excuse-moi de garder la tête sur les épaules. Figure-toi que j'ai des thunes dans cette histoire.
C'est un peu la guerre parce qu'on va peut-être acheter un cheval de course.
Ouais, et c'est moi qu'on envoie sauter sur les mines.
Vous restez dans le fauteuil jusqu'à la sortie du bâtiment, sinon on n'est pas couvert.
Merci pour votre prévenance. Merci, merci beaucoup.
Tu t'es bien foutu de notre gueule ces 3 derniers jours.
J'étais pas censé mettre les choses au point avec Goose.
Alors, comme ça, Goose va pas nous en vouloir si on achète ce cheval et qu'on lui donne pas à entraîner.
Ouais, ça le fait, c'est très honnête.
Toujours la gueule à l'envers, à pas se rappeler où il avait été. Il voudrait en plus qu'on marche sur des œufs.
Ce que veut dire Jerry, c'est que ce cheval qu'on avait même pas l'idée d'acheter il y a quelques semaines est Escalante. Lui, il le connaît par cœur avec toutes ses manies, vu qu'il l'a entraîné avant. On va peut-être acheter un cheval de course.
Donc quand on gagne des sous dans le milieu hippique, on réinvestit dans le milieu hippique.
Mais oui, voilà, comme Renzo souhaite le faire, c'est acheter un cheval. Renzo, c'est un peu le personnage le plus touchant selon moi, parce que c'est le seul qui tient vraiment à l'amitié qu'il a avec les trois autres, j'ai l'impression, ou du moins le plus. Et donc il veut un nouveau projet pour pouvoir réunir ses amis et donc acheter un cheval pour pouvoir le faire courir. Pour moi, c'est aussi le personnage le plus gentil. Maintenant, on a donc les trois autres à côté qui sont Marcus, premièrement, qui est un peu à la tête du groupe. C'est le leader, il est en chaise roulante, il a des problèmes de cœur, donc il a besoin d'oxygène pour pouvoir survivre. Et c'est le plus malin des quatre, selon moi. C'est aussi celui qui a plus la tête sur les épaules et plus terre à terre. À côté de lui, on a Lonnie qui, lui aussi, a un peu pris la grosse tête avec l'argent, parce que là, ils ont remporté le pactole deux épisodes avant. Et donc, il va s'acheter un costume, il va s'entourer de femmes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il finit à l'hôpital, parce que l'extrait se déroule à l'hôpital, parce qu'il a essayé de rouler ces deux femmes et qu'elles n'ont pas trop supporté, elles l'ont tabassé. Et Jerry, enfin, qui est le joueur invétéré du groupe, c'est le plus jeune des quatre. Lui, il passe son temps au casino, en fait, et s'il a 50 euros dans sa poche, il va aller les dépenser au casino. Et c'est un peu la malchance d'avoir gagné, on va dire, pratiquement, parce que tout son argent, on va voir qu'il va vouloir le flamber. Et Jerry, c'est un peu le protégé de Marcus aussi. Il va toujours s'inquiéter pour lui, un peu comme si c'était son fils. À côté de ces quatre personnages-là qu'on découvre de plus en plus au fil des épisodes, on en a d'autres, comme je vous disais. Donc, il y a un entraîneur de renommée qui s'appelle Escalante. Lui a plusieurs chevaux qu'il suit, avec donc plusieurs propriétaires. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bien qu'on ne s'y connaît pas dans le milieu, on va quand même découvrir certaines choses. On va savoir qu'en fait, par exemple, je ne savais pas qu'un jockey n'était pas spécialement lié à un cheval. Les jockeys ont des agents qui vont les mettre sur un cheval ou un autre. Et les entraîneurs peuvent avoir aussi plusieurs chevaux. Escalante va être l'entraîneur du cheval des quatre parieurs. Il va être aussi l'entraîneur du cheval à 2 millions de dollars de Ace. Et on a un deuxième entraîneur qui est interprété par Nick Nolte, qui est Walter Smith. Et donc Walter Smith, c'est un peu un entraîneur plus tranquille, qui a son cheval depuis longtemps, qui est le fils d'un cheval qui lui tenait vraiment à cœur quand il était petit. Et donc, c'est un cheval sur lequel il compte vraiment parce que sa mère était une gagnante. On va découvrir que son fils assez jeune et qu'il va devenir aussi très très fort. À côté des entraîneurs, on a les jockeys. On a Léon et Rosie. Léon, c'est celui qu'on va suivre un peu plus. C'est un jeune coureur, a beaucoup d'ambition. Mais dans le pilote, le cheval qu'il va monter va se casser la patte. Je ne sais pas exactement comment on dit dans les termes hippiques, mais voilà. Et donc, on va devoir le tuer d'une balle dans la tête. Et ça va vraiment le chambouler et ça va le changer aussi pour la suite. Je pense que c'est cet événement aussi qui va lui faire prendre conscience de ce que représente vraiment ce milieu hippique. Et puis, on a l'agent, Joey, qu'on appelle le porc hippique, qui est interprété par Richard Kind. C'est un agent un peu gauche, qui bégaye et qui, on voit, il n'est pas très bien dans sa peau, il n'a pas confiance en lui et il est un peu derrière les basques des entraîneurs à dire oui à tout ce qu'on lui demande. Il est assez touchant parce que on va découvrir dans les épisodes qui suivent qu'il va vouloir se suicider et la chance va être de son côté pour une fois parce qu'il va y avoir un tremblement de terre. La balle va partir mais elle va juste effleurer son visage. La personnalité des personnages est approfondie au fur et à mesure de la série et ça, je trouve que c'est un des points positifs, même si on ne comprend pas toujours tout.
Mais surtout que sur 9 épisodes, on n'a pas non plus nécessairement l'occasion de développer un maximum de choses, j'imagine.
Oui, je pense qu'ils ont réussi à développer le caractère des personnages, mais la seule chose, je pense, qu'ils auraient dû faire autrement, c'est la narration. Je pense qu'ils auraient dû raconter l'histoire de façon plus évidente pour Monsieur Tout-le-Monde, pas nous lâcher dans ce jargon hippique, mais nous expliquer les bases au départ, quoi.
En même temps, on en a parlé pour John from Cincinnati, mais je crois que Sarah peut en témoigner aussi pour Deadwood. C'est pas une première pour David Milch.
En effet, il est plutôt du genre, effectivement, à nous plonger brutalement dans des univers. Hein.
C'est sa marque de fabrique, on dirait. Mais c'est vrai que c'est peut-être une des raisons pour laquelle la série n'a pas été au plus loin que 9 épisodes, parce que David Milch, en fait, est un grand amateur de course hippique, justement. Lui s'y connaît, et donc c'est peut-être que pour lui, ça allait de soi que tout le monde comprenait ce jargon.
Moi, j'ai pas vu John from Cincinnati, j'ai pas vu non plus Luck, mais j'ai vu Deadwood. Et ce qui était compliqué aussi avec sa manière de raconter les choses, c'est qu'on ne savait pas toujours ce qu'il voulait raconter, en fait. C'est le cas aussi dans cette série-là. Dans Deadwood, on passe son temps à se dire, mais en fait, il veut nous parler de quoi ?
Où est-ce qu'il veut en venir ?
Ouais. C'est exactement ça. Exactement, surtout l'histoire avec Dustin Hoffman. On ne comprend pas du tout où ça va. Et on a l'impression que la série est lente, mais en même temps, si on loupe une phrase, on ne comprend plus rien, en fait. Et même en suivant tout, on ne comprend pas grand-chose. Alors,
ça a dû être simple de trouver des extraits, justement. Tu vas nous en passer un deuxième.
Mais oui, justement, pour vous montrer à quel point on ne comprend rien de ce qui se passe, parce que même si c'est un extrait du troisième épisode, je n'avais jamais entendu parler de ça avant, parce qu'on va nous parler de cordes. Les professionnels du monde hippique vont se retrouver dans une espèce de salle. Donc, on va avoir Walter Smith, l'entraîneur. On va avoir l'agent des jockeys. On va avoir une autre personne qui va venir près de Walter Smith en lui demandant s'il peut rester près de lui. Et puis là, il y a des personnes qui citent des cordes qui sont associées à des chevaux. Et donc, en fait, les entraîneurs viennent chercher le numéro de corde de leur cheval. Sauf que nous, enfin moi en tout cas, je ne sais pas ce que c'est une corde. Je suppose vers la fin que c'est peut-être la ligne dans laquelle le cheval doit courir, mais je n'ai aucune idée. Et donc, c'est bien la preuve qu'on est dans un univers vraiment complexe avec un jargon. Tout le long de la série, c'est comme ça, en fait. On nous parle de choses, mais on ne sait pas trop ce que c'est.
S'il vous plaît, messieurs, pour la course numéro 4 dans le registre et que vous avez sous le numéro 3. Caves Creek.
Caves Creek, corde numéro 3.
Mr. Blake.
Mr. Blake, corde numéro 6.
Midnight Wind.
Midnight Wind, corde numéro 4.
Chief Sif.
Bonjour, monsieur Smith.
Bonjour.
Et ça vous embête si je reste avec vous?
Non, c'est bon.
Dusty Road.
Dusty Road, corde numéro 2.
Une préférence pour la corde?
Ce qui est sûr, c'est que je veux surtout pas la corde. Bonjour.
On a aussi des contacts à la campagne. Ronnie a déjà couru pour monsieur Smith dans le Kentucky.
Je crois pas que monsieur Smith lui ait donné cette chance, pas vrai?
Non.
Devil's Skin.
On parle beaucoup des galops de ce cheval en ce moment.
Il a beaucoup impressionné Ronnie quand il l'a fait travailler.
Getting Up Morning.
Getting Up Morning, corde numéro 1.
Oh merde, la corde. Vous avez accumulé assez de merde pour votre magazine. Vous êtes content?
Mild Color.
Bonne chance pour la course.
Mild Color, corde numéro 6.
La corde a plutôt bien réussi ces derniers temps.
Voilà, messieurs, bonne chance pour samedi.
Mais les cordes, c'est facile. En fait, ils en ont tendu plein sur le champ de course. Et donc, tous les chevaux sont tombés. Il y a eu pas mal de problèmes avec les chevaux. On rigole. Enfin, là, je rigole, mais il y a eu des problèmes avec les chevaux sur cette série.
Oui, effectivement, il y a eu des problèmes avec les chevaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle, soi-disant, ils ont arrêté la série. Parce qu'il y a 3 chevaux qui sont morts durant le tournage. Un 3e au début de la 2e saison. Donc, ils ont tourné le 1er épisode de la saison 2. Et le 3e cheval est mort. Ils ont eu pas mal d'associations de protection des animaux sur le dos qui ont protesté et qui ont du coup engendré cet arrêt de la série.
Pourtant, ils ne les torturent pas. Hein. On rassure quand même les auditeurs, il n'y a pas d'histoire de torture de cheval dans cette série.
Il n'y a pas de torture, mais en fait, une ancienne employée de la production qui s'appelle Barbara Casi assurait justement le bon traitement des bêtes sur la production. Et justement, elle a déposé une plainte en disant que les chevaux étaient drogués aux médicaments et ils étaient en sous-poids ou malades. Donc, on peut se poser quand même des questions à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les chevaux pour peut-être avoir justement des superbes scènes, parce que ça, il faut le dire, il faut le reconnaître, les scènes sur les chevaux étaient particulièrement bien réussies. Bien que en mars 2012, il y a quand même HBO qui a annoncé qu'ils arrêtaient la série parce que la sécurité était leur première préoccupation. Donc ça, ça reste à voir qui dit vrai.
Ceci dit, c'est pas le seul problème de cette série.
À côté de justement cette complexité au niveau de la série, il y avait apparemment une mésentente entre le scénariste David Milch et le réalisateur Michael Mann. Parce qu'apparemment, le réalisateur avait du mal de son côté à céder les rênes à quelqu'un d'autre. Michael Mann, qui est quand même un réalisateur de renom à qui on doit le film Heads et Public Enemies, entre autres. Et puis, il y a David Milch qui est scénariste, mais qui était aussi créateur de séries, on en a parlé plus tôt, Deadwood, John from Cincinnati, qui est un grand amateur de sport hippique, et lui avait envie d'à chaque fois apporter son petit grain de sel au dialogue, quitte à l'échanger à la dernière minute. Et pour la petite anecdote, apparemment, il y aurait Nick Nolte qui aurait raconté au Los Angeles Times qu'un après-midi, il aurait vu Mill se diriger dans la salle de montage où se trouvait Mann, pour le contraindre à travailler plus vite avec une batte de baseball à la main. Donc,
Oh, la belle ambiance.
Ça devait être sportif. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que, comme je vous le disais plus tôt, on est face à une série assez complexe. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'audience. On était à un peu plus d'un million de téléspectateurs pour le pilote. Et puis, on est vite redescendu à 500 000.
C'est vrai que le milieu épique, ce n'est pas nécessairement le plus sexy non plus, hein. Enfin, a priori.
Mais, oui, c'est ça. Je pense que si on l'avait traité de façon plus simple, si on avait peut-être apporté d'autres histoires en parallèle qui pouvaient peut-être plus nous toucher ou ce genre de choses. Mais là, on est vraiment, j'ai l'impression, centré sur le sport hippique. On a, par exemple, entre les deux jockeys, on voit qu'il y a une petite histoire d'amour entre deux, mais c'est vraiment très, très bref. Et puis, le fait aussi de creuser sur les personnages, ça apporte un peu un côté humain à côté des sports hippiques, parce qu'on voit par exemple Dustin Hoffman dormir à côté du box de son cheval. On voit que même si c'est un grand businessman qui est là pour faire de l'argent, il aime vraiment les animaux, mais pour la plupart, les courses de chevaux, c'est vraiment pour faire de l'argent. Et par exemple, les parieurs, ils vont regarder une course de chevaux et si un cheval se casse la patte, ben ils vont pas spécialement se soucier plus que ça du cheval. Ils vont continuer à regarder la course pour voir s'ils ont gagné ou pas. Donc, c'est l'appât du gain d'abord.
Tu dresses un tableau noir quand même de cette série. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu ?
Elle est difficile à regarder, en fait, parce qu'on comprend pas grand-chose et c'est difficile de continuer à regarder une série qu'on comprend pas vraiment. Mais il y a quand même beaucoup de points positifs. Je pense que ça tenait à peu d'avoir une super série. Déjà, les cadrages, la façon dont on met en scène les choses, c'est vraiment bien fait. Les courses sont super réussies. On a des acteurs fabuleux. On a Dustin Hoffman, on a Nick Nolte et tous les autres, même ceux qu'on connaît pas, sont vraiment des bons acteurs.
Puis c'est l'occasion aussi d'aborder un milieu finalement assez obscur, assez qui intrigue. Le problème, c'est que on n'en apprend probablement pas beaucoup plus et qu'on est tout aussi intrigué quand on a fini de regarder la série.
Oui, voilà, je pense que c'était vraiment une chouette idée de partir sur les courses hippiques parce que on en apprend aussi plus sur tous ces gens qui parient et qui sont dans le domaine du jeu. Avec Jerry, par exemple, on se rend compte qu'il y a vraiment des gens qui sont accros et quand on le voit jouer au casino et dépenser et relancer de 25 000 dollars, on se dit mais non, fais pas ça, dépense pas ton argent avec ça, d'office tu vas perdre parce qu'il perd depuis le début. Et ça, c'est chouette parce qu'on aborde un univers qu'on ne connaît pas vraiment. Mais voilà, le point négatif, c'est qu'on ne l'explique pas suffisamment bien.
Est-ce qu'on ne se retrouve pas ici devant un phénomène qu'on a déjà pu observer pour plusieurs séries de cette chaîne ? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de se dire HBO prend des sujets peut-être trop pointus sans vouloir les déflorer dès le départ en étant trop mystérieux ou en voulant pas développer. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir entendu ça pour Deadwood, d'avoir entendu ça pour Carnivale, d'avoir entendu ça pour John from Cincinnati et plein d'autres séries.
Oui, c'est clairement, je trouve, la marque de fabrique des HBO, c'est de nous dévoiler des séries un peu compliquées. Des fois, ça peut marcher, mais des fois, ça peut se casser la gueule aussi, dans le cas où le public ne suit pas parce qu'il ne comprend pas. Ça peut être positif et négatif, et je pense qu'il faut être très prudent quand on nous montre ce genre de série.
Un mot sur le générique ?
Oui, parce qu'ils ont un très beau générique, je trouve, qui a pour bande son une chanson de Massive Attack. Les images aussi sont vraiment super. On a tous les éléments qui se rapportent à la chance, en fait. Donc, c'est le titre de la série. On a beaucoup de panneaux lumineux et ça fait référence au monde de la nuit aussi. Je pense que le domaine du jeu, les casinos, c'est aussi, généralement, c'est quelque chose qu'on fait la nuit. On a des pièces qui tombent du ciel, qui tombent dans des fontaines, un peu comme on jetterait une pièce dans la fontaine de Trévis qui porte chance, ce genre de choses. On a des trèfles, on a un tatouage avec dans le dos deux mains qui se joignent comme si on voulait prier. Ou aussi comme on lance des dés au final, parce que généralement quand on voit dans les films on se joint les mains et on les tape sur un tapis. On a une enseigne lumineuse chinoise sur laquelle est écrit Luck avec un fer à cheval sur dessus. On a un dé rouge qui vole dans les airs. On a des chevaux qui courent au soleil levant ou au soleil couchant, ça dépend. On a une croix que quelqu'un tient dans ses mains. On a de nouveau le mot Luck sur un panneau lumineux. On a une chevalière avec un fer à cheval. On a aussi les têtes de plusieurs personnages comme Dustin Hoffman, Nick Nolte.
Nouveau ça, on voit les personnages dans les génériques HBO. Ça c'est assez rare pour le signaler quand même.
Et oui, on voit les personnages. On n'en voit pas beaucoup. On en voit, je pense, 4, 5, mais ils sont montrés quand même de façon très froide, comme ça. Donc, Dustin Hoffman, il a un air très sévère. On voit Nick Nolte, mais de profil. C'est toujours avec des couleurs un peu sombres, un peu grisées, orangées, un peu comme un effet vintage, comme ça. Voilà, c'est un super générique qui donne l'impression qu'on va avoir affaire à une super série. Et au final, la série est vraiment bien. Je pense qu'elle avait beaucoup d'atouts, mais qu'il lui manquait juste quelque chose au niveau de la narration pour qu'on puisse la suivre convenablement. Donc voilà, c'est une série que je conseille à ceux qui sont fans de l'univers du monde épique, parce que je pense qu'ils pourront s'y retrouver beaucoup plus facilement que les autres. Maintenant, si vous êtes prêts à la suivre, je vous souhaite bonne chance, good luck. Mais voilà, je pense que c'est une série qui porte au final pas super bien son titre, vu qu'elle a quand même été arrêtée au bout de 9 épisodes et puis qu'il aura manqué de chance pour réussir son pari.
Merci beaucoup Cindy, merci Sarah, on se retrouve très prochainement. Si vous voulez découvrir Locke, je crois qu'elle est éditée en DVD, donc voilà, l'appel est lancé pour ceux qui sont intéressés par le milieu du cheval et du hippisme et des courses hippiques. On se retrouve très prochainement pour un prochain dossier de Frontières des séries.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.